au détour d'une rencontre, une émission proposée par l'association Détour, un dialogue entre vécu quotidien et réalité sociale. Bonjour, de retour avec notre émission Au détour d'une rencontre. Nous vous emmenons cette fois-ci du côté de Saint-Urbain et plus précisément à la ferme de Trévarne. Loïc vous propose une série de 2 émissions pour découvrir ce qui se vit, se joue dans ce lieu. Olivier et Jean-François, éleveurs laitiers, ont choisi de partager leur ferme avec une maraîchère, un brasseur et un fromager. Dans cette première émission, nous entendrons Olivier et Jean-François, puis Craig, le fromager.
Alors je vais commencer, donc moi c'est Olivier Glinec, 52 ans, majeur et vacciné, agriculteur depuis 32 ans, reprise de l'exploitation familiale dans des circonstances un peu particulières puisque c'était suite au décès de mon père alors que j'avais à peine mon BTS agricole en poche. Et donc j'ai démarré au début un peu pour aider ma mère et puis donc la décision avait été prise de rester là. Puis la ferme, elle a connu des bas, des hauts, des moyens, du moyen, du bon. Puis en 30 ans, on a fait pas mal de trucs. Et après, quelques années après, Jean-François est venu avec moi. On a fait une structure qui nous a pas donné satisfaction avec un troisième associé. Et quand on en est sorti, c'est là qu'on a pris un petit peu une orientation plus économe avec baisse de la production des vaches. On a commencé à mettre moins de maïs, moins de concentré, un peu plus d'herbe. Et ça s'est tranquillement évolué pour aller, après, vers des années 2010, on a complètement arrêté le maïs. On était dans un système où les vaches ne mangeaient plus que de l'herbe. Après, on a envoyé ça un peu en même temps vers des vélages de printemps. Donc, on arrête de traire les vaches l'hiver, là, donc avec des petits veaux qui recommencent à naître en février. Donc là, on est en plein pendant les vélages, parce que depuis une semaine, on a eu 14 vélages. Il y a 16 petits veaux qui courent partout, ça commence à ressembler à une vraie ferme. Il y a 30 ans, quand on avait constitué une société, Jean-François et moi, et le troisième associé, on devait être un des plus gros troupeaux laitiers du coin. Ça n'a pas duré longtemps, parce que nous, on a un petit peu baissé en production ensuite. Et surtout, parallèlement à ça, les exploitations se sont énormément agrandies dans le secteur. Et c'est simplement la démographie, enfin en partie la démographie, qui fait que le nombre d'exploitants diminue rapidement et un peu de jeunes à s'installer. Mais les structures ont tendance à beaucoup s'accroître. Et on était une ferme plutôt au-dessus de la moyenne quand j'ai commencé. Maintenant, on devient, en termes de surface, mais aussi en termes de chiffre d'affaires et de production, on commence à être nettement plus petit que ce qu'on voit autour.
Alors moi, c'est Jean-François. Je suis le frère d'Olivier. Je suis installé ici depuis 1996. À la base, moi, je suis électricien. Donc j'ai fait quelques mois en tant qu'électricien. Et puis finalement... La vie campagnarde me plaisait bien, donc je suis revenu sur la ferme après une courte formation pour avoir l'aptitude professionnelle. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas acheté une graine, donc toutes les prairies ici ont un âge avancé. Voilà, donc on ne refait plus les prairies, on est en bio, on est économe, on est un peu écolo sur les bords. Mais bon, finalement, on gagne plutôt très bien notre vie. Et on a dû réadapter le troupeau aussi. Donc aujourd'hui, on a des vaches qui sont plus petites, moins productives, mais très fertiles. Comme ça, on peut se permettre de faire veiller tout le monde au printemps. On est revenu sur l'intensification, puisqu'on s'est vite aperçu dans ce système que l'intrant ne rapportait pas, que ce soit les engrais, les semences, le conseil. On a dégagé tout le monde. Et comme ça, il n'y a plus toutes ces factures-là. On produit un peu moins, mais la baisse de production est largement compensée par les intrants en moins.
Nous, on est resté dans un système qui est un peu low-tech, où on n'a jamais été très... à la limite, même de moins en moins attiré par la technologie. Et ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup... On n'a pas agrandi la ferme, au contraire. Ça nous a permis de mettre en place un certain nombre de techniques qui sont peu coûteuses en argent et qui peuvent être faites parce qu'on a le temps de s'occuper des animaux. Quoi. Les élevages qui marchent bien sont des élevages où les gens ont le temps de faire ce qu'il y a à faire. Après, ce qui peut manquer, c'est un petit peu la main d'œuvre. Est-ce qu'il y aura du monde pour remplacer, pour prendre la suite? Nous, on n'a pas de gosses, donc je ne sais pas. Il faudrait bien qu'ils viennent de quelque part. Je suis un petit peu inquiet pour le manque d'attractivité des métiers manuels. Il y a un peu de... Et d'un autre côté, c'est bête, puisque je vois beaucoup de gens, notamment des clients de la ferme, qui sont dans des emplois de bureau, qui sont souvent assez malheureux de leur vie, quoi.
Souvent, les agriculteurs, quand ils ont fini leur première louchée d'emprunt, ils ont tendance à vouloir manger le voisin. Et nous, on s'est dit, ben, plutôt que manger le voisin, on va créer des voisins. Parce qu'autrement, on se serait retrouvés là tout seuls, comme deux abrutis, avec des commerciaux qui passent, et puis sans forcément de vie un peu intéressante et intelligente. Donc Estelle s'est pointée, c'était pas prévu au départ, et puis... Puis finalement, ça l'a bien fait. Et puis après, on a aidé Gwen. Et puis là, on va aider Craig. Et peut-être qu'on pourra aider encore d'autres gens sur différents projets, plutôt que de s'agrandir comme on devrait, enfin comme une entreprise est censée le faire. On préfère aider d'autres personnes. Voilà. Ici, le vendredi soir, il y a pas mal de clients qui passent. Et à l'avenir, si on peut, on va essayer de monter un petit bistrot. Pas forcément quelque chose de compliqué, mais un petit coin pour que les gens puissent discuter, boire un coup, peut-être en mangeant un bout de fromage. Donc ça, c'est la prochaine étape, justement, pour retrouver un peu de sens et de lien humain à toute cette histoire-là qui a tendance à disparaître dans la vie actuelle, surtout en cette période de confinement. Il y a quelques semaines, j'ai fait le tour du bourg de Saint-Urbain avec une voisine qui est élue, là, il n'y avait personne. Chacun avait une maison carrée, le SUV devant, le type de vélo identique pour les enfants à chaque fois, mais il n'y avait personne. Il n'y avait personne, et puis on s'est aperçu qu'il n'y avait pas la place pour la vie en commun, pour une vie en commun simple dans le bourg de Saint-Urbain qui n'est plus qu'un village dortoir. Donc il faut remettre des petits coins où on puisse discuter ensemble et puis rigoler sans que ce soit forcément luxueux ou quoi que ce soit.
Surtout pas aux normes.
Non, surtout pas aux normes. Non, ça, c'est important.
Quand je suis né au début des années 70, il restait encore quatre fermes dans le village. Et après, il y en a eu trois, puis deux, puis une. À un moment, on s'est retrouvés tout seuls. Et finalement, on a créé une deuxième ferme qu'on a permis à Estelle de s'installer sur un truc tout à fait différent, parce que c'est du maraîchage qui a peu à voir avec la polyculture que pratiquaient les anciens. Il y a un truc qui m'étonne, et pour avoir regardé un peu la filière agricole et agroalimentaire classique, qu'est-ce que fait Estelle et Gwen, ben finalement, on s'aperçoit que les filières, ce qu'on appelle les filières longues, donc qui font typiquement la ferme classique, la coopérative, la base logistique, le supermarché à côté, ben il doit y avoir d'énormes inefficacités parce que quand Estelle vend ses tomates bio qui sont excellentes, ben au même moment elles sont pas forcément beaucoup moins chères quand on va les chercher dans un supermarché. Elles sont souvent plus chères, donc La volonté de rationaliser tout le système agricole et alimentaire a probablement engendré d'énormes inefficacités cachées. C'est assez. Si on prend chaque étape de la chaîne, tout est poussé au maximum de la rentabilité, de l'efficacité. Mais on a rajouté tellement d'étapes avec des camions qui circulent dans tous les sens, une intensification permanente, qu'à l'arrivée, on a un petit peu oublié les choses simples et que. Ben finalement, si on garde un système simple avec des choses qui poussent dans la terre quand c'est la saison et qui sont distribuées dans un circuit de proximité, ben à l'arrivée, ça ne coûte pas forcément plus cher. Quoi. Ben on ne peut pas vivre sans consommer, mais après, la consommation on va dire industrielle et avec l'obsolescence programmée de trucs fabriqués en Chine qu'il faut renouveler tous les ans, les gens sont fatigués avec ça. Et c'est un petit peu la démarche de l'agriculture bio. Plutôt que mettre des emballages flashy avec des jolies fermes mises sur des sur-emballages en plastique, bah finalement, les gens, ils aiment autant aller voir la vraie ferme, quitte à ce que le pot dans lequel on va leur servir le yaourt ou le fromage soit pas très joli, mais la ferme où ils auront été le chercher sera jolie. C'est peut-être ça que cherchent les gens.
plus vieille vache du troupeau. Elle s'appelle Brodeuse. Elle va sur ses 15 ans. Et ma foi, elle va bien. La particularité du troupeau ici, c'est la longévité des vaches. Comme on a que ça à faire, on s'en occupe bien. Enfin, on essaye. Et c'est bien qu'on a des vaches qui dépassent très souvent 10, 11, 12 ans. Et celle-là, même 15 ans.
Au lieu d'une moyenne de...
En général, elles font à 5 ans, elles sont parties dans les élevages. 5-6 ans, elles sont parties dans les élevages classiques. Donc une durée de vie au moins deux fois supérieure ici qu'en élevage classique.
Ben, les races laitières sont des races qui ont été très sélectionnées, en particulier les Holstein. Et en fait, c'est une règle de base de la génétique, c'est que quand on croise, on améliore le produit des croisements. Et donc on a une bonne vigueur. Presque toutes les vaches qui sont là ont autre chose que du sang Holstein. Donc soit du Jersey, du Montbéliard, on a également du rouge suédois. Et maintenant, on va chercher nos reproducteurs qui voyagent en bouteille, évidemment. On va chercher les semences de taureaux, Nouvelle-Zélande, pareil, des souches de Jerseyais, de Néo-Zélandais. Et en fin de compte, en croisant les races, on améliore beaucoup la rusticité des animaux. C'est ce qu'on observe très bien chez les chiens, où les corneaux, les bâtards sont toujours plus robustes que les races pures. Le veau est trop petit, il passe entre les barreaux des barrières. Et donc ils ont leur bac à tétine. Ah bon, si, donc les 16 sont dans la même case. Bon, là, c'est un peu le bordel, mais on leur met un bac. Ils ont un bac avec des tétines. Et donc on leur donne deux gros repas de lait chaud. Du colostrum qui vient des vaches. Donc le colostrum, c'est le premier lait des vaches qui est plein d'anticorps pour protéger le veau contre toutes les infections qu'il peut rencontrer dans son début de vie. Et donc avec ces bacs où il y a 6 ou 12 tétines, ben ils comprennent vite que c'est là le casse-croûte. Et puis ben ils viennent téter le bac comme si t'étais un biberon. Quoi. C'est un bon système pour habituer les veaux pour leur donner du lait. Le colostrum, c'est comme du lait, mais c'est beaucoup plus jaune et beaucoup plus poisseux. Et c'est plein d'anticorps. D'autant plus qu'on vaccine. En fait, il y a un truc qu'on fait qui est remarquable, c'est qu'un mois avant le vélage, on vaccine les vaches. Contre les bactéries, les virus qui vont faire du tort au veau. Notamment, c'est le rotavec que ça s'appelle, qui marche contre les rotavirus. Mais c'est le rotavirus qui donne la diarrhée au veau, pas celui qui tue les gens. Et en fait, la vache est vaccinée, elle va produire du colostrum qui est immunisé, qui va protéger le veau. Et ça marche vraiment bien. Ça fait partie des systèmes qui permettent d'économiser et d'éviter l'usage d'antibiotiques.
On l'a fait nous-mêmes, la salle de trait. On l'a agrandi nous-mêmes. Donc c'est ultra simple. On est en mesure de réparer à peu près tout ici. Comme ça, il n'y a pas de frais de maintenance. Pas de robot, pas de tech.
Pas d'électronique.
Pas d'électronique. Là, on est en travaux. On a refait le sol de la fromagerie cet hiver, puisqu'on avait... On n'avait pas investi assez quand on l'a fait. On a fait au mini coup, mais ça ne suffisait pas. Donc là, on a reponcé le sol et mis un revêtement époxy dessus. Donc Craig pourra démarrer dans de bonnes conditions d'ici une semaine ou deux. Donc la cuve sera là. La cuve à fromage sera là. La petite salle, là, c'est pour faire sécher le fromage. Et puis ici, là, ça... Ici, ça va être la laverie. La laverie ici, et puis le sas d'entrée là-bas. Voilà. Ça veut dire que le lait du matin sera en fromage moulé à 14h à peu près.
Le chapon de noisetier. Jusqu'à meilleur.
Bon, moi je suis Craig Assier, je suis le fromager ici à Trévin. Bon, je suis aussi immigrant américain, c'est ça mon accent. Moi, je viens de Brooklyn, de le quartier qui s'appelle Coney Island. C'est la grande ville. Et après, on a habité pour presque 10 ans à New Jersey, que c'est aussi juste à côté de New York. C'est pas exactement non plus rural. Bon, non, c'était vraiment un grand changement de vie pour nous de venir à la campagne, mais c'est, en fait, c'est exactement qu'est-ce qu'on a cherché. Qu'on, Marie, ma femme et moi, on a décidé de retourner ici à la Bretagne. On a cherché une petite communauté. On avait pensé faire quelque chose qu'on peut construire dans, je ne sais pas, 20 ans d'habitude ici, mais en fait, c'était déjà là qu'on en est arrivé. On avait juste la chance de trouver une communauté ici. Et c'est vraiment un village vivant et c'est super bon de faire quelque chose qu'on fait pour notre communauté. Et c'est vraiment ça, on fait le fromage pour avant tout pour notre village. Et après ça, pour notre commune et ces sortes de là. Non? C'est vraiment très cool de faire quelque chose que tu sens que c'est pour la communauté. Sauf que c'est juste un truc alimentaire comme le fromage. Bon, la première fois que j'ai vu Jean-François et Olivier, bon, je pense que c'était Jean-François, j'étais en train d'acheter un pot de bière de Gwen. C'était, je ne sais pas si c'était le premier jour, le deuxième jour qu'on était installé ici. Mais pour le premier contact qu'on avait, qu'on arrivait ici, c'était Nico, qui c'est un mec très, très, très sympa. Et il est le marié de Stelle, qui arrivait chez nous de se présenter. Il nous met en contact avec tout le monde ici. Mais ça passe tout de suite. Nous sommes, je pense, 15 personnes qui habitent ici à Trévin. Nous font bien avec tout le monde ici. Mon métier à les États-Unis, c'était syndicaliste. Je travaillais avec les travailleurs, surtout les gens sans papier. Mais quand on est venu ici, je cherchais quelque chose de faire. Ça m'intéressait de faire quelque chose à demain. J'ai compris que le Fréglinec, ils avaient des idées d'installer un fromager. C'est un peu un rêve de le frère, d'avoir quelques âmes qui peuvent faire le fromage. Je comprends pourquoi. Ils avaient les belles terrains ici, les vaches contentes qui mangent de l'herbe, qui c'est super bonne qualité. Ils vous profitent de faire un produit bon avec le lait. Plus que juste vendre à la grande coopérative. L'année dernière, c'était vraiment une année de test, de test de recettes qu'on aime bien. On trouve que c'est super bon ici. On a beaucoup, beaucoup de clientes qui sont juste ici de Saint-Urbain. Et ils sont les gens bien connus maintenant. Je peux discuter avec lui qu'il aime bien avec le fromage. On avait changé le petit truc avec le fromage. On conseille de notre cliente. C'est trop cool de travailler vraiment avec ce cliente. J'ai joué un peu avec le set, mais il y a quelques livres que j'ai lu. Écrit pour des Américains de comment faire le fromage. En fait, c'est un truc, c'est un peu comme les brasseries. Aux États-Unis, il y a pas mal de petites micro-brasseries. C'est plus et plus commun ici, à la Bretagne, comme avec Gwen. Mais il y a de bons livres qui expliquent comment faire le fromage. Pour l'instant, j'ai fait le fromage qui sont relativement tout simple. Un tome de cheddar, je fais un fromage qui s'appelle le Jackez, que c'est un type Monterey Jack, un fromage américain. Les fromages sont plutôt simples à faire, mais avec, tu trouves un bon goût de le terroir. C'est c'est ça que je cherchais avec le fromage. J'aime bien un fromage simple, classique, où je profite de la qualité de lait que c'est utilisé. Après, on avait commencé à faire le vente directe ici à la ferme, et un peu à le magasin producteur Guazven, et maintenant aussi à une épicerie à Brest, Mr. Pépin. Pour cette année, on va faire plus avec des autres épiceries à l'entour de Brest, pas loin d'ici de Saint-Urbain. Quand on parle de trucs locaux aux États-Unis, on peut dire quelque chose qui vient de l'État de New York, mais c'est pour être 6 heures de New York City, non? Mais on dit que c'est assez local. J'ai aucune idée d'où viennent toutes les choses qu'on avait mangées là-bas. Mais ici, on donne un peu de préférence de choses qu'on mange, qui viennent d'ici, de très bien. J'aime bien un de les plats que j'aime bien faire, c'est un peu de veau avec de poireaux, de stèles, un peu de pommes de terre. Et je cuis dans un peu de jus pomme, qui c'est aussi produit ici à Trévin. Et je prends ce repas avec un verre de la bière de Gwen, la mignonne. Et pour finir, on a pour dessert un peu de fromage aussi. Et c'est un repas complet et ça vient juste ici de notre village.
Donc, du coup, là, on est dans la salle d'affinage.
Oui. Mais bon, on a quelques fromages qui nous restent de l'année dernière. On a peut-être notre plus populaire fromage. C'est notre tombe lavé avec le bio de Gwen. Ça donne une croûte jaune, blanc et une croûte très lisse. C'est un très bel fromage. C'est très facile à manger aussi. Mais j'ai fait aussi quelques-unes de le même fromage avec un croûte un peu naturelle. C'est vraiment différent. Tu vois tous les champignons qui sont dans le croûte. C'est plus brun, plus gris. Voilà. J'ai fait un fromage qui a quelque chose en commun avec son nectar. Ça s'appelait Land Nectar au breton. C'est un des plus demandés qu'on fait ici. C'est un fromage souple et ça va très bien avec une petite tranche de pain. J'ai fait aussi le jacques, mais depuis la semaine dernière, on a plus. C'est un fromage américain. Aux États-Unis, on dit le Monterey Jack. Ici, j'ai donné un nom breton, comme ça, c'est le jacques. C'est un fromage que je lave avec de l'eau froide. Et en fait, quand je fais ça, ça conserve un peu de minéraux dans le fromage. Ça change vraiment la texture de le fromage. Et pour moi, ça donne un goût un peu terreau. Et j'aime ça parce que ça me rappelle de le terroir, le terrain ici. C'est très bien. C'est un de mes préférés, ce fromage-là. Pour l'ensemble, on fait que le fromage affiné de tombe. Tous notre fromage sont un peu type tombe, le jacques, le nectar. Mais oui, j'aime bien le fromage qu'on peut affiner. Mais après, c'est possible qu'on va faire du fromage frais ou des choses comme ça aussi, avec par exemple du cheddar. Si les gens qui savent peut-être visiter le Canada, il y a un truc qu'ils mangent pas mal là-bas, que c'est le poutine frites. Et avec le petit c'est comme un petit grain de fromage, et ça c'est en fait, ça c'est du cheddar frais, et c'est un fromage que c'est super bon à manger, c'est tout simple à manger. Normalement je fais le fromage avec le lait du matin, et en fait je commence de faire la transformation quand les frères Glinek sont toujours en train de faire la traite. Et on met le lait direct dans le couvre de l'abattoir de le fromage. Comme ça, c'est encore chaud. Et c'est un truc que j'aime bien parce qu'on utilisait le système chauffage de la vache même pour commencer de faire le fromage. Et normalement, c'est un peu rigolo quand je mets le pressure. Et Olivier, il est normalement juste en train de finir de nettoyer le salle de traite. Comme ça, après, on prend un café ensemble et je retourne à l'abattoir. Bon, c'est un petit magasin tout simple. On s'appelait de temps en temps Craig's Bodega. C'est tout simple, c'est tout fait en bois. J'ai mon petit planche en bois dans une table tout simple où je coupe le fromage, plusieurs couteaux de fromage, le balance, c'est tout simple. Peut-être après on va mettre quelques autres choses, mais il a l'air très rustique et c'est exactement ça que je cherchais. Si je vous achète un vrai fromage, je cherche quelque chose comme ça. Voilà, c'est vraiment un petit magasin producteur.
Ainsi se clôt cette première émission de la série Rencontre à la ferme de Trévannes proposée par Loïc. Rendez-vous le mois prochain pour la seconde émission où nous ferons connaissance avec Estelle, maraîchère, et Gwen, brasseur.